ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emporté sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre ce jour?
Eh bien, salutations, vous êtes bien à l'écoute de Canal Sud sur les 92.2 MHz de la bande FM. C'est la voix du Mag qui commence, mais aussi celle de Bernie. Mais pour combien de temps ? Allô, salut Poney, ça va ?
Oui, ça va et toi ?
Très bien, la forme ?
Ouais, pas très bien.
Super, alors tu es ici et maintenant pour échanger sur les rencontres autour du social, de la psychiatrie, du soin et de l'accueil qui ont lieu au Compère, qui est un lieu associatif d'habitat et d'activité dans le Tarn.
Ouais, c'est
ouais.
Ça.
Ouais, ça lit sur Tarn entre Gaillac et Rabastinsin et ces rencontres auront lieu du vendredi 21 au dimanche 23 avril.
Voilà, c'est ça exactement.
Alors, en lisant un petit peu le programme, le sous-titre des rencontres, c'est « Antisocial, personne sans froid ». Donc c'est bien un sous-titre. Alors, ouais. C'est quoi le sous-entendu ? Est-ce que ça concerne votre positionnement, votre méfiance par rapport au social, aux soins sociaux, à la société?
Alors non, on n'a pas de méfiance nous du tout par rapport au social et aux soins. Plutôt, c'est des milieux dans lesquels on bosse ou qu'on fréquente à différents niveaux. On a mis sous-titre parce qu'en fait, c'est des milieux où il y a de la souffrance de tous les côtés, que ce soit du côté des personnes qui travaillent ou des personnes qui sont accueillies. Et du coup, c'est des milieux dans lesquels c'est très compliqué d'évoluer de façon sereine et en étant bien. Plutôt, il y a beaucoup de gens, du côté des travailleurs en tout cas, qui partent en burn-out assez régulièrement. Et on se rend compte aussi que parfois, les endroits qui sont censés prendre en charge la souffrance des gens pour les amener vers un mieux-être, en fait, font exactement l'inverse. Malgré toute la bonne volonté des personnes qui travaillent, nous, on ne remet pas du tout ça en question la bonne volonté des personnes qui bossent dans ces structures. Par contre, la maltraitance institutionnelle, qu'elle soit au niveau des travailleurs, des travailleuses ou des personnes accueillies, elle est violente. On passe beaucoup, beaucoup de temps à en parler entre nous. C'est un peu ce qu'on dit là dans le texte d'appel. Là. Moi, j'ai une formation d'éduc. La personne avec qui on co-organise, elle est éduc aussi. On passe énormément de temps à parler entre éduques de comment ça va pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire, pourquoi, comment on tient pas, pourquoi on arrête de bosser. On est beaucoup aussi à arrêter de bosser parce qu'en fait c'est plus possible. Mais on en parle beaucoup en informel, il y a relativement peu d'espace informel pour prendre le temps d'en parler et d'élaborer des stratégies collectives pour combattre ça. Nous, c'était l'idée de ces rencontres.
Ouais, carrément. J'ai l'impression qu'on reste toujours un peu aux alentours de l'institution. Là, vous allez aborder le lien, le rapport à l'institution, en fait, qui, comme tu l'as dit, crée de la souffrance, aussi bien pour les personnes qui sont accueillies que pour les personnes qui y travaillent. Donc ça, c'est un axe un peu tabou, j'ai l'impression, dans nos petits milieux militants, militantes.
Oui, alors c'est vrai que dans les milieux militants, militantes, plutôt la première parole facile, c'est de dire faut pas bosser dans ces structures. C'est de dire faut pas bosser, de toute façon c'est de la merde, c'est de l'enfermement, tout ça. Bon, à la limite sur le fond, on peut être d'accord. Juste sur la forme, en fait, il y a quand même le truc de, en fait, ces structures elles existent. Dans la question de l'aide sociale à l'enfance, par exemple, effectivement, les structures, elles sont maltraitantes, c'est compliqué, il n'y a pas assez d'éducs, les chambres et les lieux d'accueil, ils sont tout pourris, effectivement, c'est maltraitant. Bon, la question de déserter ces structures, moi, je pense qu'il faut vraiment la poser, mais pas de manière dichotomique de oui ou non. En fait, les choses, elles sont plus complexes que ça, parce qu'en fait, les gamins, ils continuent à être accueillis dans ces structures, et moi, je fais le choix là depuis quelques années de plus y bosser parce que c'est plus supportable pour moi. Mais je suis pas non plus satisfait de ma prise de position parce qu'en fait, je sais que juste là, j'ai une position confortable pour moi parce que je suis plus confronté au quotidien à cette misère et à cette souffrance. Mais en fait, les mômes, ils continuent à la vivre. Ouais, et eux, ils ont pas le choix. Ils ont pas le choix d'en partir. Du coup, j'ai aussi beaucoup de respect pour les personnes qui continuent à y bosser avec des convictions politiques et qui y vont en fait, qui lâchent rien. Et j'ai aussi beaucoup de respect et aussi j'ai beaucoup d'empathie pour elles parce qu'en fait il y en a plein qui sont aussi en énorme souffrance dans les éduques parce qu'en fait ils sont confrontés du coup à de la violence institutionnelle tous les jours et ils sont pris en étau entre les jeunes qui vont mal parce qu'ils sont des structures maltraitantes et la hiérarchie, la bureaucratie qui impose du coup des protocoles de travail toujours plus complexes qui nous font passer par l'écrit de plus en plus. Dès qu'on veut faire un projet à la con, en fait, il faut rédiger un dossier de 4 pages où il y a de moins en moins de moyens financiers. Enfin, du coup, voilà, les gens sont un peu pris en étau là-dedans. Du coup, on n'est pas dans ce discours, nous, un peu de première intention de dire, de toute façon, il faut arrêter d'y bosser dans ces structures parce que c'est de la merde. En fait, on pense que les choses sont complexes et que, du coup, faire le choix d'y arrêter, d'arrêter de bosser dans ces structures ou faire le choix d'y rester, en fait, dans les deux cas, il y a des bonnes raisons de faire ces choix-là. Ce qui est important, c'est d'en discuter ensemble et de voir quel pont on peut faire. Parce qu'en fait, dans les personnes qui arrêtent, il y en a aussi beaucoup qui créent des choses à côté. Des façons d'accompagner différentes. Dans la psychiatrie, beaucoup de gens qui sont passés par la psychiatrie ou qui passent encore régulièrement, qui sont psychiatrisés, qui mettent en place des choses pour s'entraider les unes les autres. Et du coup, en tout cas, être moins obligé de passer par le cadre institutionnel en permanence. Dans les personnes plutôt publiques consommateurs, consommatrices de substances, on va dire que du coup il y a aussi des groupes autogérés qui se mettent en place pour faire des choses aussi en parallèle des structures d'accueil type Carud ou XAPA. Enfin, en fait voilà, nous l'idée c'est de faire des ponts entre les gens qui arrêtent de bosser dans l'institution et qui créent d'autres choses à côté plutôt dans la marge et les gens qui continuent de bosser dans l'institution, qui résistent et qui font comme ils peuvent en fait. Et on pense qu'il y a des ponts à faire, en fait.
Effectivement. Pour l'instant, on est un petit peu à l'extérieur de l'institution. On va progressivement rentrer et décrire de nouveau ces souffrances qui peuvent être liées aux règles, aux lois, aux règlements. Donc avant de préciser le programme, je vous cite, vous allez essayer de créer, c'est tout à fait ce que tu disais, des ponts entre toutes les façons de résister pour que l'on prenne le temps de discuter, d'apprendre à se connaître, pour créer des liens entre le formel et l'informel, entre le cadre et la marge, entre l'institution et l'autogestion. Donc oui, il y avait besoin de réfléchir à ces différents sujets en évitant un peu les écueils, les réflexes, d'avoir une position effectivement soit contre le travail, soit contre le travail en institution, quoi.
Ouais, voilà, nous c'est vraiment ça. C'est que on a hésité par exemple à parler d'antipsychiatrie dans le texte parce que l'antipsychiatrie c'est un courant de pensée qui s'appuie sur des bases théoriques et c'est pas un courant de pensée qui dit qu'on est contre la psychiatrie.
C'est une de mes questions, justement, on t'en se débarrasser dès maintenant. Ça n'apparaît nulle part, en fait, sur votre programme, le terme d'anti-psychiatrie, qui peut être effectivement peut-être un peu clivant. Est-ce que vous vous situez dans ce courant anti-psy? Est-ce que vous le complexifiez, etc.? C'est quoi votre position par rapport à ça? Après, on n'en parle plus, quoi.
L'antipsychiatrie, en fait, c'est un courant de pensée qui est né dans les années 70 et qui est un courant de pensée qui est né plutôt, qui est parti des personnes psychiatrisées et des psychiatres qui travaillaient dans les hôpitaux. Bon, les hôpitaux psychiatriques dans les années 70, on était sur des lieux d'enfermement extrêmement violents dans lesquels, quand on rentrait, c'était extrêmement compliqué de sortir avec des personnes qui étaient attachées en permanence. Il y a une personne qui s'appelle Lisa Mandel qui est dessinatrice et autrice de BD, qui a fait des très bonnes BD, qui s'appelle HP. Là-dessus, il y a deux BD qui racontent le changement des HP dans les années 70. Le courant antipsychiatrique, il est né à ce moment-là, et c'est pas du tout un courant qui dit on n'a pas besoin de la psychiatrie, la psychiatrie doit être détruite. C'est un courant de pensée qui dit il faut ouvrir les hôpitaux psychiatriques, il faut être sur de l'accueil avec de la liberté, en fait. On peut pas être que sur de la contrainte. Du coup, c'est un courant de pensée dans lequel nous, plutôt, on se retrouve. Mais ce mot étant assez connoté et assez... En fait, peu de gens, quand même, ou en tout cas, beaucoup de gens ne connaissent pas les bases théoriques de ce truc-là. Et donc, quand ils vont le lire, ils vont se dire « Ah, c'est des gens qui sont contre la psychiatrie ». Nous, on n'est pas contre la psychiatrie. Nous, on est contre l'enfermement, on est contre les sévices corporels, on est contre la non prise en charge de la parole du patient et des personnes qui souffrent. On est contre beaucoup de choses qui ont lieu dans la psychiatrie.
Carrément, vous n'êtes pas contre la chimie, par exemple?
Non. Enfin, on n'est pas contre la chimie. Par contre, on est OK pour la questionner. On pense que par moments, ça a du sens et par moments, c'est inapproprié. Pour nous, la question, c'est quelle prise à la personne qui est en souffrance sur son traitement. À quel moment on lui explique ce que va faire la molécule? À quel moment on lui donne la possibilité de dire au psychiatre qui prescrit ce traitement, en fait, j'aimerais diminuer la dose, comment est-ce qu'on peut faire? Et du coup, la question, c'est pas est-ce que c'est possible, c'est comment on fait. Et là, c'est moi qui parle, c'est pas un point de vue qu'on a vraiment discuté là, sur l'orgas. Moi, je pense que la chimie, c'est en fait, quand on a mal à la tête, on prend un médicament et on n'a plus mal à la tête. Et du coup, sur les souffrances psychiques, y a des moments, c'est pareil. La chimie, ça peut aider à passer certaines barrières. La question, c'est est-ce que c'est possible d'arrêter ou pas, sous quelle forme, comment on réduit, comment on fait en sorte que les effets secondaires ils soient le moins dérangeants possible. Et en fait, tout ça, les personnes qui prennent des médicaments ont plein de petits tips, en fait, ont plein d'astuces, ont plein de façons de gérer leurs trucs. Et s'autogère. La question, c'est comment ces groupes de patients, ou en tout cas de personnes psychiatrisées qui ont affaire au Médoc par moment et qui élaborent des stratégies communes, comment leur pensée et leur analyse, elle est prise en charge par les psychiatres, ou elle est prise en compte, pardon, par les psychiatres, et comment ils s'en servent, en fait. Nous, on pense que c'est essentiel que les psychiatres, les infirmiers qui bossent en psychiatrie, toutes les personnes, en fait, qui bossent en psychiatrie, vraiment s'inspire des groupes de personnes psychiatrisées qui produisent du savoir théorique et pratique, en fait. En fait, il y a vraiment du savoir qui est produit. Et du coup, tous les petits tips que les personnes mettent en place, en fait, les personnes plutôt du côté du salariat devraient s'en inspirer. Et en fait, et c'est ça qu'on critique, nous, dans la psychiatrie actuelle. C'est qu'en fait, il n'y a pas assez, pour nous, de place, par exemple, qui est faite aux personnes psychiatrisées. Ou en tout cas, quand elle est faite, c'est extrêmement cadré. Du coup, comment on sort du cadre? Comment on fait des passerelles et comment on écoute aussi les personnes qui disent en fait moi je peux pas retourner à l'HP, c'est pas possible, c'est trop violent, ça me fait pas de bien. Voilà. Et du coup donc pour revenir sur la question, non, on n'est pas contre la chimie, on dit pas non plus que c'est la solution miracle. On est sur un espèce de truc entre deux c'est compliqué. C'est pas une question sur laquelle on peut répondre par un oui ou par un non.
Complètement. Et je trouve que à travers tous les questionnements que vous allez aborder, il y a souvent cette notion de choix, de responsabilité. Tu parlais de tips, ça m'a fait penser à ce zine Navigation en eau trouble qui te donne la possibilité de réfléchir en fait à ce qui peut te permettre d'aller mieux dans plein de domaines, pour essayer potentiellement de les reproduire, de t'appuyer dessus en fait comme une possibilité de confort, quelque chose qui te rassure en fait pour aller mieux. Et le fanzine dans enfin, son l'édito, on va dire, précise quelque chose que je trouve hyper intéressant, que ce n'est pas juste la psyché qui dysfonctionne, mais que c'est cette société qui n'est pas adaptée pour plein de personnes et que cela génère de forts impacts sur nos équilibres mentaux et émotionnels.
Oui, ben, on est complètement d'accord avec ça. Cette brochure là, ce guide de navigation de troubles, il y aura une présentation de ce truc là par les personnes, enfin, en tout cas par deux des personnes qui l'ont écrite il y a quelques années, et il y a une de ces personnes là qui co-organise le festival, les rencontres avec nous. C'est plutôt qu'une façon de, enfin, c'est ça justement, nous, quand on parle du savoir qui est produit par les personnes psychiatrisées, c'est typiquement ce type de brochure, en fait, où en fait il y a une vraie réflexion, un vrai savoir, et du coup moi, je pense qu'en fait, cette brochure, elle devrait être distribuée dans tous les HP, ouais. En fait. Enfin, c'est un truc qui est essentiel. Même, ça devrait être distribué dans énormément de lieux, en fait. Moi, je lutte dans mon collectif pour qu'on prenne le temps, une demi-journée, une journée, de individuellement remplir cette brochure, en parler collectivement, parce que je pense que c'est essentiel. Et on est complètement raccord avec ce truc de, effectivement, la société, elle n'est pas adaptée. Et ce qui passait pour de la parano il y a quelques années de la paranoïa au sens médical, hein, de par exemple d'avoir l'impression d'être observé partout. Bon, ben maintenant quand on se balade à Toulouse, c'est plus de la paranoïa, c'est la réalité, en fait. On est observé partout par des caméras, et du coup forcément ça déclenche aussi des choses à des moments de, en fait, on n'est pas bien, et en fait on se sent pas bien, et du coup effectivement cette société, de toute façon, elle crée de la souffrance et du malaise psychique, c'est sûr, et ça va pas en s'arrangeant, enfin.
Ouais, clairement. D'ailleurs, à un moment, je voulais parler de la phase de pandémie aussi, qui a complètement fait exploser le rapport, alors, aux soins, l'éloignement, la solitude, et qui a également aussi été un moment de contrôle sur les populations.
Et
ça va dans le sens de ce que tu es en train de dire entre la surveillance, mais c'est aussi une forme de surveillance, de ne pas pouvoir sortir de chez soi, de s'excuser de sortir de chez soi.
Oui, oui, et puis je crois qu'on est le seul pays d'Europe à avoir fait ce truc de faire des petits papiers pour pouvoir sortir de chez soi, comme des papiers à remplir soi-même en plus, avec des contrôles complètement arbitraires suivant les quartiers dans lesquels on habitait. Je crois qu'on est le seul pays d'Europe, voire peut-être du monde, à avoir fait ce genre de truc assez stupide. Et oui, forcément, en fait, mais la société de contrôle, on sait qu'on va de plus en plus vers ça, on va de plus en plus vers des sociétés fascisantes, et du coup, c'est des sociétés où la souffrance psychique, elle est quand même rarement prise en compte.
À ce moment-là, elle
est de plus en plus importante.
Ouais, et puis le soin, là, pour le coup, on s'est aperçu que c'était vital pour plein de gens complètement invisibilisés, en fait.
Effectivement, le soin, mais du coup, là ça fait depuis des années, moi j'ai l'impression que depuis que je suis né, j'entends, la psychiatrie, c'est le parent pauvre de la médecine, la psychiatrie, il manque des lits, la psychiatrie, c'est délabré, j'ai l'impression que j'entends ça depuis longtemps, et... ça passe, on s'était tellement habitué à ce discours qu'en fait, les choses ont mal, on le sait, c'est comme ça. Puis dans le soin non psychiatrique, le soin à l'hôpital, c'est pareil, ça fait combien d'années les médecins et les infirmiers étaient déjà en grève depuis longtemps et sur des grosses manifs avant même le Covid. Pendant le Covid, tout le monde parlait de la société d'après, que tout allait changer, etc. Bon, concrètement, rien n'a changé. Dans les hôpitaux, c'est toujours la même merde. Et les gens... voilà, il n'y a pas plus de monde qui ne bosse pas à l'hôpital sur les manifs de l'hôpital.
Parce qu'on s'aime à la folie. Je dédie ces lignes à mes complices inconsolables, à mes cassos, que les conseillers d'orientation ne savent plus caser. Aux psychiatrisés en sursis, tous les marmots de la zone grise, genre agité, trop bruyant dès la matière, à ceux qui se terrent dans un silence assourdissant, pour escaper de l'abattoir, à ceux qui mentent et ceux qui manquent. Premier couplet, comme pour planter le décor, détourner le destin, immaculer le poster. Quelques mots pour transgresser le mot d'ordre, pour gâcher le festin et provoquer le bordel. Bordel. De partout ça se rétrécit, les médocs ont bâillonné, et l'asile et la ville. Cherche même pas une issue, tout autour c'est pareil. Des centaines de lieux clos ont jalonné nos vies. Bordel, où je traîne la camisole, je pars de toutes les douleurs. Nardin Amok, sa turbine à la chienne, de la crèche à la morgue, à la longue les injures ont façonné les corps. Les vautours sont de sortie, psychiatre fait ton office, fais nos vies des parcours, promenade en zone grise. Pas que je relève de la psy, y'a problème. C'est pas dit que je m'en relève ici. Premier garde chiant, mon garde à vous, veut que tu te mettes à table, comme en garde à vue, sale. Peu de garde-fous, peu de cartes à jouer. C'est que le jeu est truqué, c'est que le proc fait l'arbitre et la nuit. L'infirmier dort paisible pendant que mes morts ou vivent joue de la corde à vie, serre des dents. Moi j'ai de la haine à revendre, mais là je leur fais gratuite. Bienvenue dans les non-lieux de la raison médicale, où l'erreur est proscrite et la bête est humaine. L'horreur trop quotidienne, à la longue trop banale, n'a plus parfum de scandale. Bienvenue dans le meilleur des mondes, où la route est balisée, pavée de bonnes intentions. Soyons sages, t'inquiète, il s'occupe de tout, ça dort du sommeil du juste. Second couplet, pour provoquer le désordre, pour peupler le désert et réveiller le désir, de piller le bazar, de brûler le trésor. Ils courtisent l'histoire, on se fait baiser par le récit. Bordel, j'ai mal, t'as mal aussi, on ne guérira jamais, mais c'est peut-être mieux ainsi. C'est certain qu'à Sainte-Anne, ils entraident par centaines de vrais mots, réduits à des symptômes. Mais bordel, on se soigne pas de ce monde, ils se rappellent à nous, partout, tout le temps. Dehors, les murs, dedans, la bombe, ça peut t'essouer à tout instant. Reste à savoir qui commence. Est-ce la terre ou nos têtes? C'est le même mouvement, on crache les mêmes poussières, même fumée toxique, même carrière en friche, dont de grands savants veulent extraire la pierre de folie. Signe de ton sang en bas de page ou sur les murs de ta cellule, la psy m'a tué. Y'avait quelqu'un au fond de la cage, rebelle, en colère, impatient, plus rien. Je vais peut-être être pénible une fois cette fête finie. J'aurais gratté quelques rimes avant le chaos technique. Bestiaire, maintenant je rejoins le bestiaire. Pas le choix, mes délires sont féconds ou bien alors mortels. Ou bien alors mortels. Bienvenue dans les non-lieux de la raison médicale, où l'erreur est proscrite et la bête est humaine. L'horreur trop quotidienne, à la longue trop banale, n'a plus parfum de scandale. Bienvenue dans le meilleur des mondes, où la route est balisée, pavée de bonnes intentions. Soyons sages, t'inquiète, il s'occupe de tout, ça dort du sommeil du juste. Bienvenue dans l'envers du monde, les chemins sont tortueux et la folie féconde ou mortelle. Où pousse la mauvaise herbe, où le cadavre bouge encore et il cherche la sortie. C'est le bordel, carnaval des agités, la banda marginale, grain de sable dans le barillet. Le cauchemar des voisins, terreur de la bourgeoisie, la France oisive plutôt que leur France moisie. Bordel, c'est pour mes combattants, dans les luttes quotidiennes, autant au taf qu'au ch'tard. Irrésolu même quand c'est mort d'avance, que c'est la foire d'empoigne, que ça se tire dans les pattes. À mes parasites qui se regardent en face, tous ceux qu'on les mains dedans, mais qui lâchent rien quand même, c'est big up à ceux qui essayent, c'est là la brèche, la mèche, la vraie cavale.
À l'occasion de ces rencontres, là, vous allez pouvoir donc imaginer, verbaliser ces résistances. Tu viens de parler des structures. Donc oui, on va rentrer là progressivement dans l'institution. Bon, mais voilà, j'ai appris que tu étais éduc. On a pas mal de camarades également militants, militantes qui font ce job. Et enfin, moi, j'ai toujours été étonné par ce mystère en fait encadrant ce boulot, parce qu'on doit conjuguer avec sa conscientisation, je dirais politique, et puis une certaine forme d'obéissance avec ce que représente la structure et au-delà de ça, les missions de la structure. Il y a quelque chose de paradoxal entre être juste, peut-être, dans une structure, une société injuste.
Oui, bah ça, j'ai l'impression que globalement, de toute façon, dès qu'on commence à avoir des idées politiques assez radicales, on est forcément sur des moments en contradiction parce qu'on est dans une société capitaliste et du coup vivre complètement en adéquation avec avec mes idées, moi c'est pas possible. J'ai un compte bancaire, je fais des courses dans les supermarchés, j'ai une voiture et du coup je mets du gasoil dedans. Enfin voilà, du coup j'ai l'impression que c'est pas plus le cas dans le travail salarié, que ça soit éduc ou autre, que dans ma vie quotidienne. Juste par contre, du coup, vu que nous on est face à des personnes qui vont mal et qui du coup ben le mal-être, c'est on se le prend en frontal et du coup il y a des moments ça nous touche particulièrement. C'est vrai que moi quand je vais faire le plein à la station, bon, j'ai pas tout de suite en face de moi, je vois pas les gens qui se sont tués au Kurdistan pour du pétrole. Du coup, c'est plus simple de s'en détacher, de le vivre à distance. Bon, là, c'est vrai que quand on est éduque, cette souffrance sociale, on se la prend directement et du coup, c'est insupportable, en fait. C'est insupportable et c'est insupportable de voir le peu de solutions qu'on a à offrir. Bon, après, on n'est pas non plus dans un discours de dire toutes les institutions sont maltraitantes. Il y a des institutions où il y a aussi des choses bien qui se font. Il y a aussi des petites structures qui se créent aux marges, qui du coup sont à la frontière entre le salariat et le choix de vie. Des tout petits trucs qui font des accueils à 5-6 personnes. En fait, il y a plein de micros expériences qui se font dans les. Il y a encore des marges de manœuvre, ouais. En fait. Moi, ouais. c'est ça aussi qu'on veut faire. En tout cas, qu'on veut faire passer parce que nous, c'est un truc auquel on croit. C'est qu'en fait, il y a des marges de manœuvre. Par contre, il faut y aller, en fait. Faut rentrer dedans et ça va être compliqué, il va falloir pousser les murs, on va se battre, et puis on va se prendre des échecs aussi, et il faut l'avoir en tête, que ben en fait, voilà, mais ces marges de manœuvre elles existent, et des fois ça vaut le coup d'y aller et d'enfoncer des coins en fait pour faire passer nos idées. Il y a des endroits où il y a des choses qui bougent.
Vous les évoquez complètement, ces nouveaux modèles d'accueil, de lieux, de soins, comme tu dis, la croisée du salariat, du choix de vie, de l'habitat, c'est peut-être ce que vous essayez de faire, je sais pas, au compère.
Alors nous au compère, on n'est pas dans ce, pour l'instant on a en tête de qu'on aimerait, il y a plusieurs personnes qui aimeraient bien faire de l'accueil. Là le lieu, on a beaucoup de travaux à faire, du coup pour l'instant on n'est pas en capacité de le faire. Donc voilà, pour l'instant non. Par contre une des personnes avec qui on organise les rencontres là. Nous, on a une volonté de montrer un LVA, un lieu de vie d'accueil. C'est des structures toutes petites qui sont à la frontière entre la maison d'enfants, le foyer traditionnel, quoi, et la famille d'accueil. On est sur un accueil en tout petit effectif. On accueille entre 3 et 7 personnes. Plutôt, on se dirige vers des jeunes mineurs passés par l'aide sociale à l'enfance. Et on est sur un truc de vivre avec. On est sur un truc où on habite sur place, on dort sur place, on mange, on fait tout sur place. On n'est pas dans un truc où on est. C'est pas des horaires. On vient pas de 7h à 15h, quoi. On est soit sur du temps complet tout le temps, soit sur une semaine de travail, une semaine de repos, ou 2 semaines de travail, une semaine de repos. Enfin voilà, il y a plein de modèles qui existent. Mais en fait, ça change tout. Ça change tout dans la façon d'accueillir les gens, parce que. Parce qu'en fait, quand je sais que je vais manger le même repas que les jeunes et que je vais le préparer, je vais préparer un truc qui est bon, parce qu'en fait, j'ai pas envie de manger un truc dégueu. quand j'habite une pièce, non mais c'est tout simple, ouais, en fait. C'est juste des trucs qui semblent basiques de, en fait, dormir, sur la structure qu'accueillent les jeunes. On vit pas des choses que de la même manière que quand on rentre chez soi le soir. On habite le lieu différemment quand on se lève le matin, quand on prend le petit déj. Ben, en fait, les jeunes, ils nous voient avec les yeux collés, et puis ils voient que nous aussi, des fois, on va bien, des fois, on va moins bien, et puis on fait pas semblant, on n'arrive pas avec un masque social. Beaucoup, on apprend ça en école d'éduc, ce truc de laisser sa vie privée en dehors du boulot, et laisser le boulot en dehors de sa vie privée, et mettre des frontières très claires. Nous, on fait partie des gens qui disons que c'est pas possible, ça. C'est pas possible, et que c'est pas souhaitable, en plus. C'est important de se protéger individuellement, mais c'est pas souhaitable. Moi, je suis persuadé que c'est... On n'arrive pas, de toute façon. On n'arrive pas, on fait semblant, et en fait, les jeunes le perçoivent, et du coup, il y a un truc qui n'est pas clair. Moi, je préfère arriver au taf, en fait, ou arriver le matin devant des jeunes, leur dire, putain, j'ai mal dormi cette nuit, j'ai dormi 3 heures, franchement, me saoule pas aujourd'hui, parce que ça va pas, en fait, ça va pas. Et pas faire semblant que tout va bien. Et du coup, tout de suite, on a un rapport juste, et où du coup, il y a une relation autre qui s'établit. Et en termes d'accompagnement, on est sur des trucs vachement plus humains. Du coup, nous, on est sur ce projet-là à deux, là, Karine et moi, qui organisons cette rencontre. Mais il y a plein d'autres petits trucs comme ça qui se créent. Héloïse qui co-organise avec nous, elle commence un travail de travailleuse pair à l'Avoir sur l'hôpital psychiatrique, où du coup il y a des psychiatres a priori qui ont un positionnement politique assez intéressant qui sont là-bas. Bon, il y a des trucs qui se font, il y a des trucs qui bougent, et il y a moyen de créer des structures, il y a moyen d'aller dans des structures et de faire bouger les choses. Voilà. Mais faut le faire collectivement. Si on le fait individuellement, en fait, on s'épuise, on part en burn-out, c'est compliqué.
Ouais, le cloisonnement est tout à fait impossible de toute façon. Et puis, voilà, c'est ce que tu étais en train de dire sur donner une identité aux gens, en fait, de chaque côté, quoi. Face à toi, tu n'as pas des clients ou de la politique du chiffre, en fait. C'est des individus, tu l'as un peu évoqué avec le burn-out, comment les personnes qui font de la résistance en institution peuvent recevoir du soin? Est-ce qu'il existe des moments pour eux, des temps de parole? Là, c'est aussi ce que vous faites avec ces pistes de réflexion. Mais comment on fait? Qu'il existe des moments, des lieux, voire des structures pour parler de ça et être aidé?
Eh ben, relativement peu. Hein. Relativement peu. Souvent, on est sur des trucs individuels où les gens vont voir des psys et font leur, du coup, payent des psys pour pouvoir aller travailler. Et je trouve ça très bien, hein. Je critique pas du tout le fait de faire des thérapies, enfin tu vois, c'est des trucs que je fais aussi, enfin mais juste c'est individuel. Et des espaces collectifs pour discuter de ça, il y en a pas en fait, ou très très peu, d'où pour nous l'impératif d'organiser des rencontres comme ça, en fait, parce que en fait c'est ça l'idée, c'est du coup de créer des espaces collectifs de discussion pour parler de ce truc là. Après, donc là c'est pareil, c'est moi qui parle en tant qu'individu. Moi j'ai l'impression qu'il y a un outil qui existe quand même depuis plus de 100 ans, c'est le syndicat. Et en fait pour moi le syndicalisme, ça pourrait servir à ça, ça devrait servir à ça. Ça devrait aussi servir à... On n'est pas là, en tout cas, moi je pense que le syndicat n'est pas là que pour défendre des acquis sociaux. On est aussi là pour produire de la pensée, produire de la théorie et parler de ce qu'on fait au travail et pourquoi on le fait et comment on le fait correctement. Bon, il y a extrêmement peu de syndicats dans lesquels c'est possible de parler de ça, mais quand même, c'est un peu l'idée. Le syndicalisme, c'est l'idée de se retrouver entre travailleurs et travailleuses qui font le même taf pour parler et créer du rapport conflictuel. Et moi, je pense que le rapport conflictuel, il ne faut pas le créer que sur des conditions de travail purement matérielles, de salaire et d'horaire et tout ça. Je pense qu'il faut les créer, ces conditions conflictuelles, aussi sur la pédagogie, l'accueil, comment on fait, comment on donne du sens à notre travail. Voilà. Bon. Mais c'est un vœu pieux de dire ça serait bien que les syndicats fassent ça. Pour l'instant, ça n'existe pas, en fait. En fait, il n'y a pas d'espace collectif pour parler de ça. Ou alors, à la marge, et du coup, c'est plutôt des petits trucs, ouais. Ça englobe pas énormément de monde.
L'idée, c'est vraiment se rapproprier les connaissances. Et je voulais savoir ce que tu pensais du concept émergent, là, des pairs aidants.
Bah, alors pareil, là, je te réponds en individuel. Hein, c'est pas du tout l'équipe des rencontres qui répond. Moi, je trouve ça très chouette. Je trouve que c'est quelque chose qui existe depuis quand même quelques années. Et c'est essentiel. Enfin, il y a un truc où en fait, quand on parle à une personne qui a le même vécu que nous, on n'a pas la même parole que quand on parle à une personne qui a un vécu décalé. Pour prendre un exemple qui va parler, je pense, à pas mal de gens qui nous écoutent, parler de fumer un joint et de ce que ça nous fait avec quelqu'un qui a déjà fumé, c'est pas la même chose que d'en parler avec ses grands-parents qui n'ont jamais fumé. On n'est pas sur les mêmes trucs, on peut pas... voilà. Et du coup, si on a un moment, on a envie de réduire sa consommation, c'est vachement plus simple d'en parler avec quelqu'un qui a déjà été confronté au problème. Parce qu'en fait, la personne, elle va tout de suite avoir en tête ce qu'on vit et du coup, tout de suite, on peut... Voilà. C'est des choses qu'on peut apprendre en tant que travailleur. Mais quand on les a pas vécues, c'est pas la même chose. Et du coup... Ben, pour moi, ça se complète vachement, la paire aidance et le travail avec le travailleur social qui n'a pas été confronté forcément à ces problèmes. Moi, je pense que c'est très très bien que ça se généralise. Là, je sais qu'il y a des formations maintenant qui existent. Bon, j'ai pas encore vraiment pris le temps de lire beaucoup de choses sur ces formations. Du coup, je sais qu'il y a des personnes qui ont un regard critique en disant il ne faudrait pas non plus que l'État essaye de trop faire rentrer ce truc-là dans un moule, parce qu'on va perdre justement tout le côté spontané et tout le côté humain si on veut trop le mettre dans des protocoles. Et en même temps, c'est aussi une reconnaissance du truc. Du coup, pourquoi pas, en fait. Pourquoi pas, voilà. Bon, pareil, toujours un aspect de truc un peu flou. Mais sinon, la paire et danse, c'est très, très, très bien. Il y a la série documentaire, la LSD sur France Culture, qui a fait toute une émission là sur la paire et danse. Qui a fait quatre émissions sur la santé et le soin autrement. Et un épisode sur la paire et danse qui est très chouette.
Alors, ce qu'on peut aussi dire de la paire et danse, c'est que ça défend aussi l'idée que les usagers et usagères en santé mentale, en puisant dans leur discours propre ressources, puissent reprendre du contrôle sur leur vie avec cette notion d'empowerment et sortir ainsi des clichés dans lesquels ils se sentent enfermés. Et voilà, l'empouvoirment, ça m'a fait penser en fait à l'atelier que vous allez faire autour de la Mad Pride.
Ouais.
Est-ce que tu peux parler un petit peu de ce que c'est une Mad Pride ?
Alors, une Mad Pride, c'est... donc, le Pride, c'est la marche des fiertés. Et du coup, Mad, c'est les personnes... ça veut dire fou en anglais. Du coup, c'est la marche des... Mad Pride, c'est la marche des personnes folles. La marche des personnes qui sont psychiatrisées ou qui ne se sentent pas dans une norme sociale. Ça a été lancé en France. Alors, je ne sais pas à l'étranger comment c'est. Je suis pas très très calé sur cette question-là. Donc, je vais répondre. J'espère que je vais pas dire trop de conneries et que la personne qui anime l'atelier va pas m'en vouloir.
Okay.
Je sais pas comment c'est à l'étranger. Je crois que ça a été lancé en France il y a quelques années, plutôt sur la région parisienne. Et je répète des choses qu'on m'a dit. Il semble que ça a été plutôt récupéré par l'institution et du coup par le côté salarié, du coup psychiatre, infirmier, etc. Et là, du coup, il y a la volonté de relancer ça en Occitanie. Mais vraiment porté par des personnes psychiatrisées. Voilà, du coup, il y a deux personnes là qui viennent pour organiser cet atelier, pour organiser du coup une Mad Pride en Occitanie. Je ne sais pas ce qu'elles ont en tête comme échéance. Je ne sais pas si c'est déjà très clair.
L'idée, je dirais, à la base, en fait, c'est donc le défilé, la marche festive, au cours de laquelle des usagers, usagères en santé mentale, des familles, des professionnels du social, du sanitaire, des bénévoles, des sympathisants, sympathisantes, clament le droit au respect, à la dignité, à la reconnaissance pour toutes les personnes souffrant de troubles psychiques. Objectifs. Alors la dénonciation de la stigmatisation des usagers, usagères en santé mentale, lutter contre les préjugés qui les touchent, briser les stéréotypes, schizophrénie égale violence, dépression, égale manque de volonté, faiblesse de caractère. Et c'est vrai qu'en lisant ça, j'ai pensé à l'utilisation un peu rapide parfois d'expressions autour de la folie, de schizophrène, et on est pour le coup vraiment dans la stigmatisation.
Ah oui, complètement. Ouais. Ah ouais. Oui, c'est des espèces de réflexes verbaux, en fait, où on ne se rend pas compte que ça peut blesser des gens fortement et puis que ça contribue à véhiculer des stéréotypes qui nous vont pas, quoi.
Parlons de vocabulaire. Donc, dans votre programme, je pense pas avoir vu le terme validisme.
Non. Eh bien, c'est vrai qu'on aurait pu le marquer, tu vois. C'est une très bonne remarque. C'est une très bonne remarque. On n'en a pas parlé, mais bon, c'est... On aurait dû. Ouais. Okay, voilà. Je ne sais pas trop quoi dire de plus.
Non, carrément pas.
Et en tout cas, oui, c'est l'idée de
voilà, de cette norme un peu précise.
Ouais. Ouais. Que ça soit dans tous les sens. Mais oui, effectivement, on est d'accord sur le fait qu'il y a des normes et du coup, il y a des violences et des dominations. Et le validisme, clairement, en fait partie et ça va faire partie des sujets qu'on va travailler. Quoi.
Et tu connais le sanisme ? C'est un terme que je ne connaissais pas.
Ah non, je ne connais pas ça.
Le sanisme ou psychophobie est une forme de discrimination et d'oppression à l'encontre des personnes qui ont ou sont censées avoir un trouble psychique ou une autre condition mentale stigmatisée.
Eh bien, je ne connaissais pas, mais psychophobie, j'avais déjà entendu ce mot. Et oui, bah, c'est évident que... qu'il y a ce type de discrimination, de domination qui se met en place, et dans tous les milieux, hein, on parle pas... Faut pas croire que le milieu militant autogéré, autonome, machin, est préservé de ces trucs-là, et qu'on a tout déconstruit. Loin de là, en fait. C'est les personnes qui sont en difficulté, en souffrance, etc. En Assemblée Générale, elles ont rarement la parole. Hein. Enfin, puis quand elles ont la parole, si elles ne s'expriment pas bien, comme tout le monde, avec les bons mots du milieu, rapidement elles sont têches. Du coup, je pense que dans le milieu militant, il y a un gros, gros travail à faire là-dessus. Et je ne dis pas que j'en suis exempt. Hein. Mmh. Je me mets là-dedans aussi. Hein. Tu vois, il n'y a pas un truc de... On ne parle pas de notre perfor, de gens qui ont tout compris, du tout. Quoi. C'est d'ailleurs un truc que c'est pas marqué vraiment dans le programme, mais nous, ces rencontres, on les fait de notre place et on n'est pas du tout dans une posture de dire, on va pas être dans un savoir descendant. On est complètement au même niveau que toutes les personnes qui vont venir. Où on se pose des questions et on n'a pas de réponse en fait. Juste, on a envie de créer des espaces de rencontres et de paroles. Mais alors, s'il y a des personnes qui viennent en se disant qu'on va leur donner des réponses à comment ils galèrent en fait, quelle que soit leur place quelle que soit leur place de n'importe quel côté de la barrière, dans le social ou dans la psychiatrie ou dans le reste, alors nous, on n'a aucune réponse. Hein. On va élaborer ensemble du savoir. Et on espère qu'à la fin du week-end, on aura quelques réponses. Mais ça se trouve, on sortira de là en se disant « c'était super » et puis il faut vraiment qu'on se revoie parce qu'on n'a toujours pas de réponse.
En tout cas, créer de la pensée et continuer à penser et sans tabou et voilà, et surtout se décentrer, ce que tu disais, de sa position de militant-militante un petit peu.
Ouais, moi je pense pas qu'il faut complètement se départir de sa position de militant. Hein. Je pense que c'est important d'avoir des positionnements politiques et de s'y tenir. Juste, il faut, à mon sens en tout cas, c'est important de pas être dans un truc dichotomique de oui ou non sur des sujets aussi complexes que ceux-là. Je pense que c'est important d'avoir des positions non politiques et de les garder en tête pour avoir des grilles de lecture des situations. Mais effectivement, comme tu dis, il faut rester à l'écoute en fait, des personnes qui sont dans ces structures. Et encore une fois, quel que soit de côté de la barrière, on peut avoir un regard critique et en même temps comprendre les choses et du coup complexifier la pensée. En fait. C'est ça l'idée. En fait. Sur ces questions-là, la pensée elle doit être complexe. Elle ne peut pas être... pas être simple, en fait.
Et toujours dans les objectifs de la Mike Pride, il y a à montrer que les personnes en souffrance psychique sont des personnes comme les autres. Leur fierté, c'est de ne pas être extraordinaire, Donc ça, je trouvais que c'était un point intéressant. Et aussi faire valoir la reconnaissance du pouvoir de décision des usagers et usagères dans les accompagnements qui leur sont dus. Donc ça m'a évoqué l'un de vos ateliers, à savoir positionnement autour du choix de sa, son psy. Conseil et éclairage pour s'y repérer avec l'association pour le soin queer et féministe, la SQF de Toulouse. Peut-être penser en termes de psy communautaire, psy concerné.
Bah ouais, en fait, la proposition de faire cet atelier, elle est venue parce que, bon, elle est venue tout simplement parce qu'en fait, moi, je vais chercher un psy il n'y a pas longtemps, enfin, une psy en l'occurrence, et qu'en fait, je ne savais pas par quel bout choisir, en fait, à quoi faut être attentive quand on choisit une psy, qu'est-ce qui fait sens, pourquoi, enfin. Et du coup, je me suis posé plein de questions. Bon, j'ai fini par trouver des réponses un peu comme chouvé, mais on se disait que, en fait, on est plein à être confronté à ce truc-là de, en fait, quand on doit choisir un ou une psy, qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on regarde ses tarifs? Est-ce qu'on regarde son courant de pensée? Est-ce que la première séance, elle est gratuite ou pas? Est-ce que la personne au téléphone, elle prend le temps de nous écouter ou pas? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'elle nous pose comme question? Et du coup, avoir un espèce de guide pratique de comment, à quoi faut être attentif ou attentive. Et du coup, c'est un peu ça l'idée de l'atelier. La plupart des ateliers, une des envies qu'on avait là dans l'orga, c'était de que ça soit pas juste de la parlotte, qu'on essaie de ressortir avec un objet concret. Et du coup, là, cet atelier-là, si à la fin, peut-être en 2 heures, ça va être compliqué, mais peut-être, en tout cas, il y aura une ébauche, une espèce de mini brochure qui dirait en fait voilà si vous cherchez un ou une psy ça faut y être attentif en fait par exemple moi on m'avait conseillé de demander par exemple aux personnes au téléphone est-ce qu'elles suivent une supervision une supervision qui est un espace pour discuter en tant que professionnel de comment on travaille et du coup ce qui permet de pas être dans la toute puissance ce qui permet de se remettre en question et remettre en question son accompagnement. En tant que travailleurs sociaux, c'est des choses qu'on fait, c'est essentiel. Voilà, du coup, on m'avait conseillé de demander ça au psy qui avait au téléphone. Bon, bah, il y en a, quand j'aurais posé la question, ça les a sacrément vexés. Bon, bah, du coup, moi, ça m'a directement indiqué qu'en fait, je n'avais pas envie de faire une thérapie avec ces personnes. Voilà, donc c'est ça un peu l'idée de cet atelier, avoir des conseils pratiques quand on est dans cette recherche-là.
Et vous allez aussi évoquer les médecines alternatives. Tu penses à quoi?
L'idée de cet atelier-là, qui s'est appelé médecine alternative et soins psy, le risque de passer d'une domination à une autre,
Ouais. Alors
point d'interrogation,
le mot
c'est
de
une question.
domination est fort, je trouve.
Ouais. Alors ça, c'est parce que on a mis cet atelier-là parce que du coup, alors comment le dire sans. Bon, je vais le dire avec mes mots, et puis pareil, c'est pas moi qui anime cet atelier, donc si les personnes qui l'animent le diraient sûrement différemment. On se rend compte qu'il y a pas mal de gens qui sont très critiques, par exemple par rapport au traitement chimique, par rapport à la psychiatrie, par rapport à aller voir des psys, etc., par rapport à aller en HP, et qui par contre sont extrêmement ouvertes à tout ce qui est naturopathe, hypnose, fasciathérapie ou je sais pas quoi, toutes ces médecines dites parallèles. Et on questionne, nous, ce truc de, justement, bah, par exemple, de la supervision. De à quel moment les personnes qui sont naturopathes, hypnothérapeutes, etc., questionnent l'accompagnement qu'elles ont et à quel moment, du coup, il peut y avoir une domination qui se met en place. L'idée, pareil, c'est pas du tout de dire l'hypnose ou la naturopathie ou n'importe quel le chamanisme ou quoi, c'est pas bien. C'est pas la question de savoir si c'est bien ou pas. La question, c'est, encore une fois, quel pouvoir a la personne qui va voir ses thérapeutes ou ses soignants sur l'accompagnement. Combien ça coûte, ces accompagnements? Est-ce que c'est à un moment c'est discutable ce prix? Une personne qui va consulter toutes les semaines et où c'est 70 balles la séance et où à aucun moment il y a un espace de discussion du prix, moi ça me questionne. C'est pas pour dire que ça vaut pas assez sous-là, peut-être la séance ça vaut vraiment 70 euros, peut-être, j'en sais rien en fait, moi je suis pas de l'autre côté du bureau, juste je pense que ça vaut le coup de questionner certains trucs. Et du coup, on a envie de questionner ce truc-là. Il y a des moments, les rapports de domination, ils sont insidieux, et on a l'impression que quitter des espaces institutionnels comme la psychiatrie pour aller vers des trucs plus qui nous semblent plus éthiques, en fait, c'est pas aussi simple que ça, et c'est pas juste parce que je vais voir un ou une chamane et qui du coup s'inscrit pas du tout dans les courants de pensée traditionnels de la culture occidentale, qu'on va se libérer de certaines formes de domination du soignant sur le soigné.
Ah si, carrément, oui, bien sûr, ça peut recréer une dépendance. D'ailleurs, en t'écoutant, voilà. J'étais en train de me dire que vous auriez dû appeler ça les rencontres autour du social, de la psychiatrie, du soin, de l'accueil et du pouvoir. Des pouvoirs.
Et ouais. Bah, c'est vrai que la question du pouvoir, elle est centrale. La question du pouvoir, elle est centrale. Et du coup, dans le truc de donner du pouvoir à tout le monde, en fait. Donner du pouvoir aux personnes accueillies, aux personnes qui accueillent, aux salariés, aux usagers, tout le monde, en fait, redonner du pouvoir d'agir, parce qu'en fait, c'est vraiment ça la difficulté principale, c'est qu'on n'a plus de pouvoir, en fait. En tant que salarié, on ne peut rien faire, en tant qu'éduc, on est coincé, et du coup, le pouvoir d'action, il est extrêmement limité. Et en tant que personne accueillie, franchement, moi, quand je vois les jeunes qui sont accueillis dans cette structure, en fait, ils ont du pouvoir sur rien. Ils peuvent pas décider la couleur de leur chambre. Ils peuvent pas décider à quelle heure ils vont se coucher. Ils peuvent pas décider ce qu'ils mangent. Ils peuvent pas décider. En fait, ils peuvent rien décider. Du coup, forcément, ils peuvent être des ouates. En fait, c'est normal. Et du coup, voilà, je parle des jeunes, mais c'est la même chose dans tous les secteurs. Du coup, oui, on aurait pu appeler ça comme ça. reprendre du pouvoir.
Pour la prochaine.
Que ça T'étais folle déjà bien avant tout ça. C'était pas ta faute mais c'était celle des autres. J'aurais dû t'aider à soigner tes maux. On finira de haut commissariat. Je changerai pas quitter même si j'ai le choix. Je suis seule, nuit bercée dans tes bras. C'est tout ce que je demande de toi. On me l'avait déjà dit que c'était la folie. Je sais pas ce qui m'a pris. Tout ça pour cette nuit. À deux dans le mosh pit, au piano Yeezy. À deux dans le mosh pit, au piano Yeezy. T'es que j'ai rien à voir. Ils avaient la boca. Ils veulent tous être comme toi. C'est bien qu'ils ne peuvent pas. Mais ils veulent tous t'avoir. On n'a pas besoin de ça. On est très bien comme ça. Si on en a marre, un jour futur de se voir. Faudra prévoir une signature impair. Pas que le soir, on finisse dans le tracas. T'es mon territoire. Faut la se battre pour t'avoir. On me l'avait déjà dit que c'était la folie. Je sais pas ce qui m'a pris. Tout ça pour cette nuit. À deux dans le mosh pit. Au piano Yeezy. À deux dans le mosh pit. Au piano Yeezy. On l'avait déjà dit que c'était la folie. Je sais pas ce qui m'a pris, tout ça pour une scène. À deux dans le mosh pit, au piano Yeezy. À deux dans le mosh pit, au piano Yeezy.
Ça te dit qu'on reprenne un petit peu par jour les activités avec les heures?
Ouais, très bien. C'est bien. Je peux refaire le programme rapidement là, pour les personnes qui n'ont pas eu le fly. Le vendredi soir, il y a un spectacle de théâtre qui s'appelle O26 qui aura lieu à 20h30. C'est c'est un seul en scène d'une personne qui était éduque, qui je crois l'est encore. Et qui raconte un foyer d'urgence pour mineurs en danger. Elle est seule sur scène, elle va jouer différents personnages, elle va jouer une éduque, elle va jouer plusieurs jeunes qui ont différentes problématiques. Et alors moi, je l'ai déjà vu, pour toutes les personnes qui ont bossé avec des jeunes en tant qu'éduque, c'est extrêmement parlant, c'est extrêmement juste, c'est drôle et triste à la fois, ça fait beaucoup de bien, et ça permet ça permet d'en parler. Donc, du coup, l'idée, c'est de ensuite discuter de ce que ça nous fait, ce spectacle et tout ça. Du coup, ça, c'est à 20h30 le vendredi, et on accueille à partir de 17h30 pour les personnes qui peuvent s'installer, et il y a un repas en mode auberge espagnole avant. Voilà. Et la grosse journée, c'est le samedi, où donc le matin, il y a un accueil à partir de 9h, et ensuite, toute la matinée, on va faire une grosse assemblée générale de présentation de ces rencontres, et plutôt, on sait qu'il y a pas mal, il y a plusieurs personnes qui viennent, qui font partie de différents collectifs, et qui du coup, font déjà des choses, en fait, du coup, présentation de ces collectifs qui viennent, un peu questionnement de pourquoi on est là, et du coup, s'il y a des gens qui ont des envies de discussion, d'ateliers, etc., ça va être aussi le moment de les dire. On a laissé de la place volontairement dans le programme pour ça, pour qu'il y ait des trucs qui puissent sortir un peu au dernier moment. En fait, nous, on pense qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'orgas pour créer une discussion. En fait, juste, s'il y a 5-10 personnes qui sont intéressées pour parler d'un sujet, ben, en fait, qu'elles le fassent. Voilà, on est là pour ça, on en parle. Donc voilà, ça va être tout le matin. Ensuite, on a laissé des grands temps de pause dans le programme parce qu'on a envie de laisser de la place à de l'informel pour qu'il y ait des rencontres qui puissent se faire. Du coup, ensuite, il y a 2 heures de pause avec un repas qui sera préparé par des cantines militantes. Ensuite, 2 heures d'atelier. Ensuite, repause pour goûter pendant 1 heure. 2 heures d'atelier. Du coup, ça fait 14, 16 et 17, 19 les ateliers. Ensuite, il y a une personne qui va nous faire qui va chanter un truc qui s'appelle Chanson à la bouilloire. Un repas repris en charge par une cantine militante. Un concert, un DJ set, une petite boom, et puis une fin de soirée. Et le dimanche, restitution des ateliers, bilan et perspective un peu du week-end. Si jamais, on ne sait pas trop comment ça va se passer, ni combien il va y avoir de personnes, mais si jamais il y a des personnes qui veulent continuer les ateliers, il y a aussi de la place l'après-midi. Pour l'instant, nous, on a imaginé le truc qui se finit à 13h. Là, cette fois-ci, il n'y a pas de repas de prévu, mais il y a un marché. Le marché de l'île sur Tarn qui est juste à côté, du coup on peut manger ensemble aussi pour les personnes qui le souhaitent. S'il y en a qui veulent continuer les ateliers l'après-midi, ce sera possible, et sinon on est sur un rangement et une fin de week-end.
Avec peut-être une brochure ou un mini-fanzine qui viendrait conclure ces 3 jours de rencontre.
Ouais, alors qu'il sortira sûrement pas direct à la sortie du week-end, mais en tout cas, il va y avoir un micro-sillon qui est un groupe d'entraide mutuelle qui fait de la radio, qui va venir et qui va prendre du son, voire même faire un plateau radio en direct, à voir, on sait pas trop, ça va dépendre de techniquement comment c'est possible.
Ah, on les connaît à Canal Sud, ouais. Je diffuse du son déjà, ouais.
Et du coup, ils seront là, du coup, il y aura du son qui sera pris, qui sera sûrement monté et diffusé après. Il y aura, on espère, plusieurs écrits qui vont sortir des différents ateliers. Et puis sûrement, on écrira un texte, j'imagine, de bilan. En tout cas, oui, l'idée, c'est qu'il y ait de la production après. Peut-être qu'il y aura des actions qui vont être pensées, on ne sait pas quoi. Parce que la production, ce n'est pas forcément que de la théorie, ça peut être aussi de... Concrètement, on va bloquer telle structure, je ne sais pas.
Ah ouais,
j'en sais rien.
Carrément, d'accord.
Non, mais je veux dire...
Bon, t'es chaud. En fait,
non, mais moi, je pense qu'il y a des trucs à créer en termes de résistance. Okay. Je parle pas de blocage complètement illégaux, machin, où faut voilà. Juste, les manifester devant le conseil départemental pour dire ce qui se passe dans l'aide sociale à l'enfance et dire comment c'est insupportable. Je pense qu'il faut le faire. Je pense que c'est important et que, faut pas faire comme s'il y avait juste besoin de savoir théorique. Il y a aussi besoin de mise en pratique pour mettre les personnes qui décident et qui ont les budgets face à leurs responsabilités.
Complètement. Sur les programmes de discussion, j'ai lu Atelier Théâtre de l'Opprimé. Je ne sais pas ce que c'est.
Le Théâtre de l'Opprimé, c'est une c'est un truc qui a été créé dans les années 60 ou 70, je ne sais plus, au Brésil, parce que ce n'était pas possible de s'organiser en groupe militant là-bas, c'était la dictature. Et du coup, par le biais du théâtre, l'idée, c'était de mettre en action des personnes. Et du coup, très concrètement, le Théâtre de l'Opprimé, c'est il y a des scènes de théâtre qui sont ouvertes, qui sont écrites, avec, dans ces scènes de théâtre, il y a des situations d'oppression qui sont jouées sur scène. Et du coup, il y a une personne qui est sur scène aussi, qui joue le rôle du Joker, on appelle comme ça, en fait, qui du coup, à un moment, va arrêter la pièce de théâtre et va interroger le public en disant Est-ce que vous identifiez une oppression là dans ce truc-là, en gros, qui va le faire avec des mots vachement mieux clés. Du coup, souvent, vu que la pièce a été écrite pour ça, les personnes identifient l'oppression. Et après, il y a la proposition qui est faite, du coup, au public de monter sur scène et de remplacer la personne opprimée pour essayer de faire évoluer la situation. Le parti pris, c'est de dire, en fait, les oppresseurs, eux, ils sont confort dans leur rôle. Du coup, dire, il faudrait que l'oppresseur, il fasse ci, il fasse ça, et ça, il n'y aura plus d'oppression, ça marche pas. C'est de la place de l'opprimé qu'il faut partir pour changer la situation. Et du coup, l'idée, c'est de de jouer ça par le biais du théâtre. Bah, parce qu'en fait, quand on a répété des situations plusieurs fois, c'est vachement plus simple quand on est dans la vraie vie de les vivre. Voilà. Du coup, ça, c'est l'idée du théâtre de l'opprimé. Donc là, c'est la personne qui fait le spectacle de théâtre au 26, le vendredi soir, qui va animer cet atelier. Et voilà, du coup, je ne sais pas exactement comment elle a prévu d'animer le truc. Et j'imagine que ça va être en partant des situations des gens qui ont participé à l'atelier théâtre et de qu'est-ce qu'ils ont comme situation dans lesquelles ils se sentent opprimés en ce moment. Et du coup, à partir de là, construire des petites scénettes et les jouer et du coup, travailler sur les oppressions. C'est un outil qui est très, très intéressant.
J'ai vu, pour terminer aussi, un thème, on l'a évoqué aussi tout à l'heure, autour des consos, parler ensemble de nos consommations légales et illégales pour en faire un sujet politique et collectif. Et je pense que c'est aussi encore trop tabou dans nos univers un peu militants.
Ouais, oui, effectivement. Bah, ça, c'est un petit groupe qu'on a créé il y a quelques mois, là, quelques-unes, en se disant, en fait, la question des consommations de produits stupéfiants, qu'ils soient légaux ou illégaux, pour nous, c'est pas trop la question. Souvent, elle est individualisée. En fait, c'est individuellement qu'on se pose la question de est-ce que je bois trop ou est-ce que je consomme trop tel truc et comment je vais faire pour réduire ma consommation, ou en tout cas pour ou pour réduire ou pour consommer, que ça se passe bien dans ma vie quotidienne ou dans mon taf. En tout cas, toutes les questions autour de ce truc-là sont toujours individuelles. En fait, collectivement, on n'en parle jamais. Mais jamais, en fait, on est très souvent seul face à nos trucs. Des fois, on en parle entre personnes concernées, genre en soirée. Ah ouais, moi je bois trop. Ouais, moi aussi. Ah, tiens, viens, on va reboire un verre. Et puis hop, ça s'arrête là. Bon, voilà. Du coup, il y avait l'envie de parler de ça collectivement et d'en faire un vrai sujet politique, parce que pour nous, c'est politique.
Complètement.
Et il y a l'objectif de. Alors, où là, on commence à amorcer ce travail-là. Il va être. L'idée, là, c'est de recueillir du contenu sur cet atelier, de réécrire la brochure guide de navigation de nos troubles, mais sur un volet consommation, en fait, avec du coup l'idée de créer un support papier pour interroger ces consommations et pour les interroger individuellement et collectivement. Et alors nous, notre discours, c'est pas du tout de dire il faut pas consommer.
Oui, non, c'est pas moral.
Ou la drogue, c'est super. On n'est pas dans un truc ni l'un ni l'autre. On est dans un truc de en fait, ça existe. La drogue existe. On est énormément consommé. Encore une fois, que ce soit légal ou illégal, que ce soit drogue dite dure ou drogue dite douce, machin, pour nous, c'est pas la question. Mais on est quand même beaucoup dans ces consommations. Et du coup, parlons-en, en fait. Parlons-en et faisons-en un sujet politique, parce que ça l'est. Voilà.
Complètement.
C'est l'idée de cet atelier.
Carrément. Poney, merci. Donc, je rappelle que ces 3 jours auront lieu du vendredi 21 au dimanche 23 avril au Compère. C'est à Lille-sur-Tarn.
Ouais, c'est ça. Il y aura des panneaux sur la route. Il ne faut pas suivre le GPS et il l'amène ailleurs. Il faut le suivre pour un moment. Et après, au moment où il faut arrêter de suivre, il y aura des grands panneaux qui en iront. Où il faut aller.
Bon, c'est le Tarn. Ça reste le Tarn, ça va, quoi.
Voilà. Et si c'est possible de se préinscrire pour ce week-end, ça nous simplifie grandement la tâche pour avoir un peu une vision sur combien il y aura de personnes, les cantines et compagnie. Du coup, je vais lire l'adresse, mais elle peut se retrouver aussi. On a fait un article sur IATA.
Oui.
Et sur Démosphère, etc. Du coup, il y a l'adresse partout. Mais du coup, je vais quand même la lire pour les personnes qui voudraient la noter. C'est anti-social.tpts@proton.me. anti-social.tpts@proton.me. Voilà, c'est super si vous pouvez vous préinscrire. Ou si vous avez des questions, des propositions d'atelier ou quoi. On répond, on est assez réactif en ce moment.
TPTS, tu perds ton sang-froid, bien sûr.
Voilà, c'est ça.
Alors, un dîner entre amis ne se finit jamais sans une citation de Bernie, bon voisin. Dans Antisocial, tu perds ton sang-froid, il y a quand même deux phrases assez mystérieuses. Alors, puisque tu es un peu un spécialiste, je voulais connaître ton avis. Si tu pouvais me faire une petite explication de texte sur « Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle, impossible d'avancer sans ton gilet par balle ». En rime riche déjà, balle, bon.
Oui. Tu voudrais que je t'explique cette phrase?
S'il te plaît, je pense que ça peut conclure brillamment cette séquence.
Alors brillamment, je sais pas.
Faites pas un atelier d'ailleurs, explication de texte de Bernie Bonvoisin.
Non, mais bien. Écoute, si tu veux le porter, t'es le bienvenu, il y a de la place. Viens. Et même on peut faire une reprise de Antisocial, tu perds ton sang-froid au vocodeur.
Aïe,
avec une petite bite de Joule derrière là. Franchement, je pense que ça sera du meilleur goût et complètement bien mis.
Ça peut grave le faire, ouais. Tu veux rajouter quelque chose, Pony?
Eh ben non, merci, merci pour ce temps. Et puis n'hésitez pas à venir, quelle que soit votre place et vos questionnements sur ces questions-là. Il n'y a pas besoin d'être directement dedans, ni d'être pro, ni d'être directement concerné. Il y a de la place pour tout le monde et pour toutes les réflexions.
Ok, et une nouvelle fois le programme est retrouvé sur Yaata et aussi sur Démosphère.
Voilà.
Merci, bonne journée dans le Tarn.
Ouais, merci. À bientôt.
À bientôt, ouais. Salut. Ciao, bye bye.
Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette femme pleine de vice. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, perdons les années de sévices. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Écraser des gens est devenu ton passe-temps. En les éclaboussant, tu deviens gênant. Dans ton désespoir, il reste un peu d'espoir. Celui de voir les gens s'emparer d'un bâtard. Mais cesse de faire le point, serre plus dans les poings. Bouge de ta retraite, ta conduite est trop parfaite. Relève la gueule, je suis là, t'es pas seul. Ceux qui hier t'enviaient, aujourd'hui te jugeraient. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de sévices. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Les gens ne te touchent pas pour faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette femme pleine de vice. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de sévices. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus.